donc je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce colloquium du laboratoire de mathématiques, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Alain Valette, qui va nous parler de graphes expanseurs et applications.
Merci beaucoup. Bon, c'est toujours un plaisir d'être en Auvergne. J'aimerais vous parler de famille de graphes. Donc, il faut savoir que quand on parle de graphes expanseurs, on utilise toujours le pluriel parce que les expanseurs, ça ne désigne pas un graphe, mais une famille de graphes finis, connexes, mais dont le nombre de sommets tend vers l'infini. Donc, je vais d'abord faire des choses un petit peu intuitives. Donc, les graphes expanseurs. Sont des familles de graphes finis réguliers. Donc régulier, ça veut dire que le nombre de voisins d'un sommet est fixé d'avance. Et là, je commence à utiliser des guillemets. Non seulement ils sont connexes, au sens que vous connaissez tous, mais ils sont très connexes. Et le fait qu'ils soient très connexes, ça peut s'exprimer de trois manières. Ça peut s'exprimer d'une façon combinatoire. Et ça veut dire que, dans le jargon, on dit qu'ils n'ont pas de petite coupure. Ça s'exprime encore en disant qu'ils sont difficiles à déconnecter, difficiles à déconnecter. Ça peut s'exprimer de façon algébrique. Et là, on se met à parler des valeurs propres d'une certaine matrice qui s'appelle le Laplacien combinatoire. Et ça vient à dire que les valeurs propres non nulles du Laplacien combinatoire sont grandes. À nouveau, ça demandera à être précisé. Et ça peut s'exprimer d'une façon probabiliste. En disant que la marche aléatoire simple sur le graphe converge rapidement vers la distribution uniforme. Pour l'instant, j'ai appelé théorème entre guillemets, c'est que ces trois définitions sont équivalentes. Alors évidemment, je vais pouvoir être plus précis dans un instant. Et disons, juste pour dire que c'est pour moi un des intérêts des graphes expanseurs, c'est que c'est vraiment des graphes qu'on peut étudier de plusieurs points de vue et les différents points de vue se complètent et s'enrichissent mutuellement. Alors bon, maintenant, soyons plus précis. Donc, commençons par la combinatoire. Donc, je regarde. Un graphe D régulier. Donc, comme toujours, V c'est l'ensemble des sommets, et E c'est l'ensemble des arêtes. Et pour S, une partie de l'ensemble des sommets, on va noter E de S, S complémentaire, ce qu'on appelle la coupure associée. C'est-à-dire l'ensemble des arêtes qui relie S à son complémentaire. Ah, donc l'ensemble des arêtes qui ont un pied dans S et un pied dans S complémentaire. Et donc enfin, l'image mentale, c'est que si ça c'est le graphe, vous avez une partie S. Et vous regardez, peut-être devrais-je prendre la craie de couleur, voilà. Donc vous regardez toutes les arêtes qui traversent le. Enfin, on note aussi ça, on appelle ça aussi le bord de S. Et donc. Pourquoi on appelle ça une coupure ? Ben parce que justement, si on veut déconnecter S du complémentaire, c'est exactement les arêtes qu'il faut enlever. Et avec ce nombre, on va former ce qu'on appelle le quotient isopérimétrique. C'est-à-dire que si maintenant on fait l'analogie avec un corps convexe dans l'espace euclidien, l'isopérimétrie classique consiste à comparer la surface du bord au volume de l'intérieur. Et ici, on va faire pareil, mais dans un cadre combinatoire. Donc on va définir quelque chose qu'on appelle la constante d'expansion ou constante isopérimétrique. Alors ça va être le minimum sur les parties S de V, de quoi ? Ben, du quotient, où on regarde le nombre d'arêtes dans le bord, et on compare ça au nombre d'arêtes dans S, et on fait une petite remarque quand même que... Oui, du fait de la symétrie qui existe entre S et son complémentaire, on peut se ramener aux parties S qui font moins de la moitié des sommets. Alors bon, peut-être un ou deux exemples très simples. Si je regarde le graphe complet sur N sommet, Kn, donc ça c'est K5, ben, c'est clair que si vous avez une partie qui a petit k sommet, son bord va avoir n-k sommet. C'est ça. Non, qu'est-ce que je raconte ? K fois n-k. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel sommet dans S, n'importe quel sommet dans le complémentaire, il faut jouer par une arête. Donc, vous avez K fois n-k. Donc, c'est ça qu'il faut optimiser. Et donc, on voit que la constante isopérimétrique est à peu près égale à n sur 2. À l'autre extrême, si je prends le cycle de longueur n, cn, voilà c'est 6, mais vous voyez tout de suite que si vous prenez un demi-cycle, le bord, ça réduit exactement à deux arêtes. Donc, de ça, on tire que la constante isopérimétrique de Cn, elle est très petite, elle est de l'ordre de 4 sur n. En tout cas, ça tombe vers 0 avec n. Bon, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur l'expansion et l'isopérimétrie. Alors maintenant, donc, parlons un petit peu d'algèbre linéaire. Donc, je vais introduire le Laplacien combinatoire sur X. Alors, c'est un opérateur linéaire sur... Bon. Là, je vais être très pédant. Bon, c'est un espace de dimension finie, bien sûr, mais donc, comme je vais devoir travailler avec des produits scalaires, je vais tout de suite introduire la notation phi telle de V. Donc, les fonctions sur V, disons en valeur réelle, avec le produit scalaire habituel. Et que fait ce Laplacien? Ben, il prend une fonction, f de l'aide de V, x au sommet, et c'est une fonction qui commence par à multiplier par D, mais surtout après ça, on soustrait la somme des valeurs de f sur les sommets voisins de x. Donc il y a toute une théorie des fonctions harmoniques discrètes qui essaie d'imiter ce qui se fait dans le cas classique. Et donc, un exemple, une fonction harmonique, ce sera une fonction qui a du Laplacien. Donc vous voyez que, par exemple, le principe de la moyenne est une trivialité ici, puisque une fonction va être harmonique si et seulement si la valeur en x est la moyenne des sommets sur les sommets, la moyenne des valeurs sur les sommets voisins. Et donc ce qui se passe, c'est que je peux peut-être dire ce que ça fait matriciellement. Si vous le regardez non pas comme opérateur, mais comme matrice n fois n, donc sur deux sommets x, y, ça fait d si x est égal à y, et puis moins le nombre d'arêtes de x à y, si x est différent de y. Alors, ce qui est facile de voir, c'est que cet opérateur de Laplacien combinatoire est un opérateur positif. Sur petit n2. Et son noyau, c'est exactement les fonctions constantes. C'est un corollaire de la connexité. Fonction constante. Et donc, puisqu'il est positif, ben son spectre, ses valeurs propres, c'est une suite de nombres positifs qui commence par 0. On va noter lambda 1 de x, la première valeur propre non nulle. Et il y a une double inégalité qui relie lambda 1 à la constante isopérimétrique. C'est-à-dire que lambda 1 de x sur 2, c'est plus petit que h de x, qui lui-même est plus petit que racine de 2d lambda 1 de x. Donc d, c'est le degré du graphe. Hein, le graphe est dérégulier. Alors, cette double inégalité est connue dans la littérature sous le nom d'inégalité de Tiger-Bouzer. C'est un cas c'est le cas classique où ni Schiger ni Bouzer n'ont contribué à ça. Mais ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de bien mieux. Ils ont démontré l'analogue riemannien. C'est-à-dire que donc ils ont travaillé en géométrie spectrale sur le spectre du Laplacien riemannien, sur une variété riemannienne compacte. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que la constante isopériométrique de la variété est bornée haute et bas. Enfin, la borne inférieure, c'est Schiger, la borne supérieure, c'est Bouzer. Donc, il y a des inégalités simples qui n'impliquent que des constantes classiques de la géométrie de la variété. Et donc, si je devais donner des vraies attributions, la première inégalité, ici, elle est due à Alon et Nielman. Et la deuxième inégalité est due à Dotschuk. Mais ça vous montre déjà que si on s'intéresse à des familles de graphes et qu'on regarde les comportements asymptotiques, ben essentiellement, regarder le comportement de la constante isopériométrique ou le comportement de la première valeur propre, ben c'est pareil. Alors, je vais quand même dire un mot sur l'approche probabiliste. Donc, pour la marche aléatoire simple sur X, ça veut dire qu'on part d'un sommet et puis avec probabilité 1 sur D, on se déplace vers un sommet voisin le long des arêtes et ainsi de suite. Donc on se donne une origine X0. Et on va noter P indice T de X, la probabilité que la marche soit en X après en T pas. Et on a une inégalité qui nous dit que la norme L1, ou si vous pouvez y penser comme la distance de variation entre cette probabilité P indice T et la distribution uniforme sur le graphe, et ça c'est plus petit que racine N, et je dis que N était le nombre de sommets, je crois que je l'ai pensé très fort. Donc, N, c'est le nombre de sommets. Et donc, racine N, facteur de 1 moins lambda 1 de X sur D à la puissance T. Donc, ça veut dire, donc vous voyez que si on contrôle lambda 1 de X, on contrôle la décroissance, enfin la convergence de la distribution P de T vers la distribution uniforme. Et avec tout ça, on peut écrire ce que c'est qu'une famille de graphes expanseurs. Donc pour l'instant, j'ai travaillé avec un seul graphe. Maintenant, je vais regarder des familles de graphes de plus en plus gros. Définition. Une famille XK de graphes dérégulier connexe fini et juste pour éviter les trivialités on va quand même écrire que ces graphes sont de plus en plus gros donc le nombre de sommets tend vers l'infini. On dit que c'est une famille d'expanseurs. Si les conditions équivalentes suivantes sont satisfaites. Donc la première de ces conditions, c'est qu'il existe un epsilon positif tel que la constante isopériométrique du Kn graphe est bornée inférieurement par epsilon, pour tout cas. Donc les constantes restent loin de zéro uniformément au cas. Il existe un epsilon prime positif tel que lambda 1 de xk est supérieur à epsilon prime pour tout cas. Et donc vous voyez que l'équivalence entre 1 et 2 est une conséquence immédiate des inégalités de Chigurh-Bouzet. Et 3, il existe epsilon second positif tel que si je regarde la distance de variation entre la distribution P indice T, donc la distribution des probabilités au temps T, et la distribution des formes, ça c'est majoré par racine du nombre de sommets fois 1 moins epsilon seconde à la puissance T. Donc, ce qui nous dit vraiment qu'on a une décroissance exponentielle, enfin, donc, cette distance de variation décroît exponentiellement. Bon, alors, à ce stade, évidemment, vous aimeriez avoir des exemples. Je ne vais pas vous en donner tout de suite, parce que, justement, un point intéressant, c'est que les exemples sont non triviaux. À ce stade, je peux vous donner des non-exemples. Non-exemple. Les cycles CN ne forment pas une famille d'expansion. Hein, puisque nous avons vu que la constante isopériométrique tend vers 0 avec N. Vous pourriez dire on peut prendre les cas n, puisque là la constante isopériométrique explose. Alors justement, ils n'entrent pas dans la définition, puisqu'on demande des familles de graphes réguliers et avec d fixé, avec d qui dépend pas du paramètre. Alors vous allez dire pourquoi on fait ça. Donc remarque. Marque sur l'exigence de dérégularité. Mais il y a une petite relation très simple dans un graphe régulier qui lie le nombre d'arêtes au nombre de sommets. C'est que le nombre d'arêtes, c'est des fois le nombre de sommets divisé par 2. Puisque en chaque sommet, vous voyez exactement d arêtes. Donc vous multipliez d par le nombre de sommets, et puis vous dites que les arêtes ont chaque fois été comptées 2 fois. Donc, ça veut dire que, si on se souvient que dans une famille de graphes expanseurs, donc la taille des graphes est de plus en plus grande, ça veut dire que le nombre d'arêtes, croît linéairement vers l'infini avec le nombre de sommets. Ce qui ne serait pas le cas pour les graphes complets, bien sûr, pour ce qui est le nombre d'arêtes est quadratique. Et là, pourquoi est-ce qu'on impose cette exigence? Mais une des raisons, c'est que la notion de graphe expanseur est née à la fin des années 1960 dans la théorie des circuits de communication. Et donc les gens qui modélisaient des circuits de communication avaient aussi une contrainte de coût à respecter, à savoir que les circuits de communication, bon, à l'époque on les faisait peut-être avec des lignes en cuivre, maintenant on fait des fibres optiques, mais l'un comme l'autre, c'est cher. Donc il y avait une contrainte de coût qui fait qu'on demandait que le nombre d'arêtes soit linéaire en nombre de sommets. et ce qu'on a officialisé donc, dans la définition de graphe expanseur. Bon. Alors, où servent les graphes expanseurs? Ils servent. Alors, je ne suis pas du tout informaticien. Donc, là, je vais me contenter de répéter des noms. Et pour certains, je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Il y a une série de domaines d'informatique théorique où ils sont utilisés. Par exemple, dans ce qu'on appelle la dérandomisation. Bon, il y a aussi les codes correcteurs d'erreur. Les circuits de communication, que j'ai déjà mentionné. Et la théorie de la complexité. Évidemment, ils servent aussi en maths. Alors là, je suis un peu plus sur mes terres. Bien sûr, ils servent en théorie des graphes. Ils servent en théorie des groupes. Assez curieusement, ils ont trouvé des applications en variété de dimension 3. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, en théorie des nombres. Et enfin, en théorie de la musique. Il y a un problème célèbre qui s'appelle le théorème de Rozièvitch qui a été résolu, enfin, dont la solution fait appel au. Une des solutions fait appel au graphe expanseur. Alors justement, bon, les constructions. Alors je vais commencer par mentionner un théorème qui a été démontré par Pinsker. C'était un informaticien théoricien, et c'est aux alentours de 1970. Et de façon informelle, ce que Pinsker dit, c'est que la plupart des graphes sont bons. Alors bien sûr, bon, je vais préciser. Donc, je vais plus précisément, hein, si on se fixe un epsilon positif, pour n tendant vers l'infini, la proportion des graphes déréguliers sur n sommets avec h de x plus petit qu'epsilon. Ah, donc, vous fixez l'ensemble des sommets, 1, 2, 3 jusqu'à n, et vous regardez tous les graphes déréguliers là-dessus. Il y en a un nombre fini. Donc, c'est un problème bien posé de regarder la proportion de ceux dont la constante isopérimétrique est plus petite qu'epsilon. Vous voyez, cette proportion tend rapidement vers 0 avec n. Donc, cette proportion tend vers 0 pour n tendant vers l'infini. Donc, ce théorème affirme l'existence de familles de graphes expanseurs, et même de. Il dit que la plupart des familles de graphes sont bonnes, et ce théorème n'est pas du tout satisfaisant pour les informaticiens qui exigent des constructions explicites. À ce stade, il y a un parallèle à faire avec les nombres transcendants. C'est, évidemment, on dit qu'il existe des nombres transcendants parce que les nombres algébriques, c'est dénombrable. Donc on sait que presque tous les réels sont transcendants. Mais en même temps, exhiber un nombre transcendant, comme vous le savez, c'est un vrai théorème. Donc on en est là. Alors justement, il y avait un problème ouvert qui était donc l'importance des constructions explicites. Et la première solution à ce problème a été donnée en 1973 par Margulis en utilisant un gadget venu de la théorie des représentations qui s'appelle la propriété T de Cajdan. Je vais maintenant en rappeler. Donc ça concerne les représentations unitaires, donc hilbertiennes, des groupes de type fini. Donc un groupe de type fini, je l'appelle G, j'appelle gamma, je l'appelle gamma, a la propriété T de Cajdan. Qui existe une partie génératrice finie S et un epsilon positif qui sont tels que chaque fois qu'on prend une représentation unitaire de gamma sur un espace de Hilbert, s'il existe un vecteur xi dans l'espace de la représentation et en fait dans la sphère unité de cet espace, s'il existe un vecteur unité qui est déplacé à moins d'epsilon par les générateurs de S, donc le maximum sur les générateurs de S de la distance entre pi S xi et xi, ça c'est plus petit qu'epsilon. Alors on peut dire que la représentation essaie d'avoir des vecteurs invariants, hein, parce qu'il y a des vecteurs qui ont très très peu bougé, eh bien elle réussit. Alors, pi a des vecteurs invariants. Non, mais... Bon. Et... Le théorème, pardon, d'abord il existe des exemples, et ça c'est justement ce que Cajdan avait démontré en 1967. Enfin, l'exemple le plus simple à décrire c'est SLMZ, avec n au moins 3, et plus généralement, donc, le contenu du théorème de Cajdan, c'est les réseaux dans les groupes de Lie simple de rang au moins 2. Donc ça c'est Cajdan en 1967. Donc, on a un petit stock d'exemples, et c'est suffisant pour pouvoir écrire le théorème de Margulis. Qui lui date de 73, et qui dit la chose suivante. Soit gamma un groupe avec la propriété T. Admettons une infinité de quotients finis. Donc, exemple, SNZ avec n au moins 3. Hein, puisque vous avez SNZ, vous pouvez réduire modulo un nombre premier, et donc SNN du corps à P éléments est un quotient fini de SNZ. Alors, ben, avec ces quotients finis, je vais leur donner un nom, je vais les appeler gamma indice K. Soit S, une partie génératrice finie, du groupe gamma, et évidemment je peux la projeter dans chacun des quotients finis et ça me donne une partie génératrice finie du quotient. Et avec cette partie génératrice, je fabrique le graphe de Kelly. Donc la famille. Le graphe de Kelly. G. Quotient gamma k par rapport à l'image de S, mais cette famille est une famille d'expanseurs déréguliers. Et D, c'est simplement le nombre d'éléments dans la partie génératrice S. Donc, grâce à ça, on peut fabriquer des exemples de familles de graphes complètement explicites. Alors, je me disais que cet théorème de Margulis, je vais le démontrer. Et donc, comme ça, vous verrez l'intérêt de travailler avec d'autres définitions que, par exemple, la définition combinatoire. Hein, parce qu'ici, c'est vraiment la définition spectrale, la définition en termes de valeur propre, qui s'impose pour mettre la main sur le trou spectral. Donc voilà la démonstration de Margulis. Donc, pour chaque cas, je vais fabriquer un petit espace de Hilbert qui sera en fait dimension finie, qui sera les fonctions sur le quotient fini gamma k de masse nulle, enfin de somme nulle, quelques sommes sur x dans gamma k. De f de k égale à 0, f de x égale à 0. Et là, si je fais agir le groupe gamma k, disons à gauche, cet espace est invariant pour la représentation régulière, et je vois cette représentation comme une représentation de gamma par via l'application quotient. Et donc pi k, la représentation correspondante de gamma sur HK. Et j'observe que cette représentation n'a pas de vecteur fixe non nul. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, l'action de gamma sur gamma k est évidemment transitive, parce que gamma k est un quotient. Et donc, quand vous avez une action transitive, les fonctions fixes sont les fonctions constantes. Mais comme on a justement imposé que la somme de ces fonctions sont zéro, vague 0, la seule constante d'intégrale nulle, ben, c'est 0. Donc par transitivité, l'action de gamma sur gamma k. Alors mon hypothèse, c'est que gamma a la propriété t. Et donc vous voyez, j'ai une famille de représentations sans vecteur invariant de mon nul. Ça veut dire que ces représentations n'ont pas presque de vecteur invariant. Donc ça veut dire que chaque fois que je me donne un vecteur unité dans une de ces représentations, il est bougé par au moins un des générateurs. Ça, je parle de la propriété T. Donc, par la propriété T, si je prends une fonction dans HK, disons de norme 1, et il existe un générateur dans S, S0, qui dépend de la fonction F, tel que IS0F moins F en norme est supérieur à epsilon. Alors bon, maintenant cette relation, je vais l'élever au carré, et je vais développer le carré, donc ça va me donner, comme c'est des vecteurs unités, je vais avoir 2 moins 2 fois le produit scalaire IS0F, F, donc ça c'est supérieur à epsilon carré, et ça veut dire que le produit scalaire IS0F, F, est inférieur à 1 moins epsilon carré sur 2. Bon. Alors, je garde ça en tête. Maintenant, je vous donne l'applacien sur le graphe de Kelly. Et il se fait que ce laplacien, il est facile à écrire en termes d'opérateur de la représentation. Ici, c'est d fois l'identité moins la somme sur les générateurs. Donc des générateurs vus dans la représentation. Pourquoi ? Parce que donc ce qu'on écrit, dans la définition de laplacien, donc on doit sommer sur les voisins. Mais dans un graphe de Kelly, passer d'un sommet à un sommet voisin, ça revient à multiplier à gauche par un générateur dans le groupe. Et multiplier à gauche, c'est précisément ce que fait la représentation de Pika. Donc en fait, ce laplacien, il s'écrit de façon très simple en fonction des opérateurs de la représentation. Et grâce à ça, évidemment, je peux calculer la forme quadratique associée à ce laplacien. Donc laplacien de K F, produit scalaire F. Donc, en me rappelant que F est un vecteur unité, donc je vais avoir D moins somme sur S, donc sur tous les générateurs, de pi K S F F. Et dans cette somme, je vais isoler le générateur spécial qui s'appelle S0. Donc ça va faire D moins somme sur S différent de S0 de pi k S F F tant que j'ai plus de place. Bon. Ici. Donc il y a un dernier terme qui est moins pi k S0 F F. Alors, ce terme-là, donc je regarde pas le signe, j'oublie le signe moins pendant une seconde. Ce terme-là, je peux l'estimer de façon très brutale, simplement par l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Il est plus petit que 1. Et ce terme-là, je sais qu'il est plus petit que 1 moins epsilon carré sur 2. Donc, Maintenant, en tenant compte du sigma moins, ça me donne une borne inférieure sur la forme quadratique. Laplacien disk F scalaire F va être supérieur à D moins. Alors combien de fois 1
ben,
D moins une fois. Donc ici, D moins 1, moins 1 moins epsilon carré sur 2.
Alors une petite prière pour qu'il n'y ait pas d'erreur de signe, mais je crois que ça marche. Donc quand la poussière retombe,
on voit que c'est exactement epsilon carré sur 2.
Et donc on a montré que la forme quadratique est minorée. Et justement, et ça, ça donne l'estimation sur le lambda 1. Hein, parce que je vous rappelle que les le noyau du lambda 1, c'est exactement les constantes. Donc ici, on minore la forme quadratique sur l'orthogonale des constantes, c'est-à-dire qu'on estime le lambda 1.
Donc ça, ça dit exactement que le lambda 1 de notre graphe de Kelly est supérieur à epsilon carré sur 2. Et ça termine la démonstration de Marcus.
Alors, il y avait un petit défaut dans la preuve de Marcus, c'est qu'avec la technologie de mai 70, il n'était pas capable d'estimer le epsilon. Allez, donc, à l'époque, tout ce que lui donnait la propriété T de Cajdat, c'est qu'il existe un epsilon. Et donc, le meilleur epsilon possible, c'est ce qu'on appelle la constante de Cajdat.
Définition, c'est la constante de Cajdan.
Et en fait, pour SLNZ, c'est un problème qui a été résolu
relativement récemment. Donc pour SLNZ, n au moins 3.
Alors il faut que je précise la partie génératrice, puisque l'epsilon il dépend du choix de S.
Et S, c'est l'ensemble des matrices élémentaires.
Donc, celle avec des 1 sur la diagonale et 1, 1 quelque part ailleurs.
Mais là, il y a un résultat de Kassabov en 2003
qui a démontré la chose suivante.
Sur 42 racine de n plus 860 est inférieur à epsilon qui est inférieur à racine de 2 sur n.
Donc on ne connaît pas la valeur exacte, mais on a cet encadrement qui au moins donne le comportement asymptotique avec n. Ça se comporte en 1 sur racine n. Et en fait, un calcul exact est quelque chose de très difficile. Parce que, en général, pour ces groupes discrets, on sait très peu de choses sur la théorie des représentations. Or, il faut être capable, a priori, d'après la définition, de contrôler toutes les représentations.
Bon, alors,
c'est bien une heure, hein, Yves? C'est bien une heure que je dois...
Oui.
D'accord, alors il reste 10 minutes. J'avais tout à coup un doute affreux. Bon, alors pour terminer, je voulais mentionner une application possible, enfin, une application parmi beaucoup des graphes expanseurs, mais c'est aussi pour un petit peu faire le pont avec la conférence qui se tient à Clermont pour l'instant. Donc, ce que je voudrais mentionner, c'est une application pour géométrique. Si je me donne deux espaces métriques, X avec une métrique d'indice X, Y avec une métrique d'indice Y, et f une application de x et y. Mais on va dire que f est un plongement grossier s'il existe ce qu'on appelle des fonctions de contrôle. Alors c'est des fonctions de vers plus vers r plus qui sont assujetties à une seule condition, c'est de tendre vers l'infini à l'infini. Et qu'est-ce qu'elles font ces fonctions de contrôle? Elles sont telles que chaque fois que je donne deux points x exprimés dans l'espace source, dans l'espace grand X, et qu'on regarde la distance au but entre les images f de x et f de x', eh bien ça va être minoré par rho moins de la distance à la source, et ça va être majoré par rho plus de la distance à la source. Donc, ce sont des applications qui ne respectent pas du tout la distance, elles sont très loin d'être des isométries, mais d'une certaine façon, elles respectent les ordres de grandeur. C'est-à-dire que si vous avez des points qui sont loin à la source, ils vont être loin à l'arrivée, et d'autre part, si vous constatez que les points sont loin à l'arrivée, ça veut dire qu'ils sont loin à la source. Alors, un des intérêts, c'est pas le seul, mais de cette notion, vient d'un théorème tout à fait remarquable qui a été démontré par Guanyang Liu en 1998 et puis, disons, complété par Kasparov et Liu en 2006, qui dit la chose suivante. On prend gamma, un groupe de type fini, avec la métrique des mots. Donc, on fixe un système de générateur, on regarde le graphe de Kélé, et on regarde la métrique dans le graphe de Kélé. Donc, ça équipe le groupe d'une structure d'espace métrique. On appelle la métrique des mots. Si gamma se plonge grossièrement dans un espace de Hilbert, alors ça c'était la version originale de Yu en 98, et puis en 2006 Kasparov et Yu ont montré qu'on pouvait remplacer l'espace de Hilbert par une classe d'espace de Banach qu'on appelle les Banach uniformément convexes. Alors, la conjecture de Novikov sur l'invariance homotopique des hautes signatures pour les variétés de groupe fondamental gamma. Est vrai. Donc, alors ça c'est un théorème tout à fait extraordinaire parce que sous une condition métrique, pas algébrique, une condition métrique très faible, à savoir de se plonger dans l'espace de Hilbert, donc Yu est capable de déduire cette vieille conjecture de Novikov, une conjecture donc en topologie, sur la variance par homotopie de certains nombres caractéristiques.
Et bon, alors je trouve que, enfin, disons, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce résultat. Et évidemment, c'est un résultat qui pose beaucoup de questions, et en particulier, il se fait que la plupart des groupes qu'on connaît, les groupes de type finish, admettent un plongement grossier dans un espace de Hilbert, et qu'il faut vraiment travailler énormément pour construire un exemple d'un groupe qui ne se plonge pas dans un Hilbert, et c'est ici qu'on voit apparaître les graphes expanseurs. Parce qu'en effet, une classe d'exemple. En effet, donc, il y a une proposition qui a été démontrée en 1994 par Lignal, London et Rabinovitch. Et puis, c'est une démonstration qui a été simplifiée par Gromov en 2000, c'est que une famille d'expanseurs n'admet pas de plongement grossier dans un Hilbert. Alors, bon, j'ai malheureusement pas le temps de faire la preuve, elle est assez jolie, mais ça sera dans une autre vie. Donc on a une espèce d'archétype des espaces métriques qui ne se laissent pas plonger dans un Hilbert. Et ça posait évidemment la question de savoir, imaginez qu'on puisse construire un groupe qui dans son graphe de Kelley possède une famille d'expanseurs. Ça veut dire que ce groupe ne se laissera pas plonger dans un Hilbert et donc ne satisfera pas les hypothèses du théorème de Yu. Et en 2001, Gromov a esquissé la construction de ces groupes qu'on appelle des groupes aléatoires. Il y a plusieurs modèles de groupes aléatoires, mais en particulier le théorème. Donc, Gromov, 2001, ça a été précisé. Donc, les détails ont été fournis par Arjan Seva et Delzan en 2008. Il existe des groupes de type fini qui contiennent une famille d'expanseurs dans le graphe de Kelley. Et donc, ne se plonge pas grossièrement dans un Hilbert. Bon. Alors, il se fait que, à nouveau, ça pose un certain nombre de questions. Si on a en tête la généralisation de Kasparov et Yu, donc là, il se fait qu'il y a un autre théorème pour lequel on a deux constructions. On a une qui est due, la première est due à Vincent Laforgue, ici présent. Je crois, si je me souviens bien, c'était en 2007. Et puis il y a une autre construction plus récente de Manor Mendel et Asaf Nahor en 2009. Il existe des expanseurs, des familles d'expanseurs qui n'admettent le plongement grossier
dans aucun Banach uniformément convexe. Et en fait, l'exemple de la forgue, qu'il a obtenu grâce à ce qu'il appelle la propriété T renforcée, c'est justement des quotients finis d'un réseau dans SL3 des PADIC. Donc, il y a un parfum arithmétique à la construction. Et voilà, donc là, je vous ai un petit peu essayé de vous d'appâter les gens qui ne sont pas là pour la conférence, pour certains des exposés de la conférence. Donc, il y aura en particulier prochainement un exposé de Vincent Laforgue. Je ne sais plus quel jour. Pardon ? Non ? Non ? Il n'était pas prévu au départ ?
Non, c'était l'an dernier.
C'était l'an... Bon. Tant pis. À nouveau, dans une autre vie, vous irez écouter Vincent Laforgue.
Alors... Marie-Claude,
ah, d'accord. Non, non, mais bon. Alors, je crois que je peux terminer en mentionnant un problème nouvel. S'il n'est plus ouvert, Vincent va me contredire. C'est, existe-t-il des groupes de type fini qui ne se plongent dans aucun Banach uniformément convexe? Donc le point, c'est que les expanseurs qui se plongent dans des groupes doivent satisfaire des propriétés combinatoires particulières. Ils ne sont pas a priori satisfaits par les constructions, enfin, pour autant que je le sache, dans les constructions de la Forgue et au Mendel-Naor. Et donc si on a des exemples de groupes qui ne satisfont pas les hypothèses du théorème de Yu, mais on n'est pas sûr d'avoir des exemples de groupes qui ne satisfont pas les hypothèses du théorème de Kasparov. Donc voilà un petit lien entre la théorie des expanseurs et les sujets qui sont discutés cette semaine. Je vais m'arrêter là. Merci.
Des graphes expanseurs au-delà du cas dérégulier.
Pour autant qu'on bande le degré.
Oui.
Bon, ce qui se passe, c'est que il y a un petit peu moins d'exemples parce que les groupes te donnent forcément des graphes réguliers. Enfin, les graphes de Kélé sont réguliers, bien sûr. Mais il y a beaucoup de la théorie qui passe. Pour autant que tu bandes le degré. Oui.
On va aller sur une biaisité fonctionnelle, on regarde aussi des tout spectres faibles ou des vitesses de convergence plus exponentielles. Parce qu'on peut regarder des graphes expanseurs avec des probabilités plus faibles, quand il y a des croissances qui viennent de variables en fonction du point vers zéro,
Est-ce que c'est Romain Tessera la bonne personne à qui poser la question disons. est-ce qu'on peut garder des taux spectraux faibles Donc là, faire tendre notre spectral vers zéro, de façon contrôlée, c'est ça.
Donc,
c'est
ça. Le but, c'est pas, c'est que pour un poids il est défonctionnel, ça a vraiment des. En concentration de la mesure, ça nous donne des concentrations sous-exponentielles de la mesure ou des vitesses de convergence sous-exponentielles pour ce microbe associé à chaque Markov correspond. Par contre, je ne sais pas ce que ça donnerait dans la suite, mais on serait caractérisé pour un tas de problèmes. Mais qu'est-ce que ça donnerait dans la suite?
Je pense que vous avez...
Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être regardé. Je ne suis pas sûr que ça a été vraiment regardé, mais pas, à mon avis, ça mérite de l'être. C'est probablement pas facile.
Independent of what I said today.